RFI 9h30, à Paris 7h30, en temps universel. Le journal, Xavier Besson.
Et là, une ce matin, Julien, la question de la neutralisation du groupe armé FDLR, point sensible des relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sujet complexe et épineux. Mais hier, la chef de la diplomatie congolaise a visiblement fait un pas en direction de ses voisins. Correspondance à Kinshasa dans un instant. Dans ce journal également, les Bongos, Ali, Sylvia et Noureddine, qui disent avoir des preuves en vidéo pour soutenir leurs accusations, notamment de séquestration et de torture contre les militaires qui ont pris le pouvoir à Libreville il y a 2 ans. Le Mali, où l'Assemblée de transition valide un projet de loi qui permettrait au président Assimi Goïta de rester au pouvoir sans élection. Et où dans le même temps, les djihadistes du JNIM disent leur intention d'établir un blocus sur la grande ville de Kaye, c'est dans l'ouest du Mali. Et puis nous ferons le bilan de la visite ces derniers jours au Ghana de Narendra Modi, le premier ministre indien. C'est donc l'un des points clés de l'accord signé la semaine dernière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le sort réservé au FDLR, ce groupe armé formé à l'origine par des anciens génocidaires rwandais et installé dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Rwanda assure qu'ils font peser une menace sur sa sécurité et demande leur neutralisation, demande à laquelle la ministre des Affaires étrangères de RDC semble sensible. À Kinshasa, Alexandra Branjon.
Si les FDLR sont une menace, très bien, nous allons y mettre fin, a déclaré hier soir la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, qui est revenue sur le dispositif prévu par l'accord de Washington. Il y aura tout d'abord une localisation de ces groupes armés, a-t-elle indiqué, suivie d'une phase de sensibilisation pour ceux qui souhaiteraient désarmer et rentrer au Rwanda, et enfin une phase opérationnelle, c'est-à-dire leur neutralisation. La ministre n'a pas exclu la possibilité d'une coopération extérieure, notamment de la MONUSCO, la mission des Nations Unies. Mais pour les chercheurs, la mise hors d'état de nuire de ce groupe armé risque d'être complexe. Les FDLR forment aujourd'hui des poches de résistance dans des zones contrôlées par les rebelles du M23 et donc difficilement accessibles par l'armée congolaise. Il s'agit également d'un groupe fluide, estime un chercheur, dont les membres se sont mélangés à d'autres groupes armés de la région, rendant leur identification d'autant plus compliquée. Alexandra Banjon, Kinshasa, RFI.
Après leur audition par des juges français au début de la semaine, les Bongos s'expriment, l'ancien président gabonais Ali Bongo, sa femme Sylvia et leur fils Noureddine, qui ont porté plainte en France contre les militaires qui ont pris le pouvoir à Libreville en 2023. Plainte notamment pour séquestration, détention arbitraire et actes de torture et de barbarie. Les Bongos qui disent désormais avoir joint à leur plainte une vidéo montrant les sévices qu'ils ont subi, ainsi que les pressions des militaires sur la justice gabonaise pour les faire condamner. Si le sujet vous intéresse, un article complet est à lire sur RFI.fr. Le Gabon, où les 8 candidats de la dernière élection présidentielle avaient jusqu'au 25 juin, c'est-à-dire mercredi de la semaine dernière, pour déposer leur bilan financier de campagne auprès de la Cour des comptes. Le plafond qu'il ne fallait pas dépasser, c'était 10 milliards de francs CFA. L'ont-ils fait à Libreville, Yves-Laurent Goma.
Il a obtenu 0,36% des suffrages et terminé 6e sur 8 candidats. Le docteur Stéphane Germain Ilokobusengi affirme avoir déposé son bilan de campagne.
Je l'ai fait parce que c'est la loi. La loi ne précise pas l'origine des fonds du candidat. En revanche, on nous demande de tenir à la disposition de la Cour des comptes nos comptes de campagne.
Selon ses proches, Brice Clotaire Oligingema, vainqueur du scrutin avec 94,85% des voix, était le premier à déposer son bilan. Alain Simplice Bongwere et Joseph Lapensée, joints au téléphone, l'ont fait également. Par contre, Alain-Claude Bilé-Binzé, arrivé en deuxième position, affirme n'avoir pas déposé son bilan.
La constitution gabonaise ne reconnaît pas cette prérogative à la Cour des comptes. Les deux instruments juridiques majeurs que sont la constitution et la loi organique Tentons la Cour des comptes au contrôle des finances publiques. Ma campagne ayant été financée sur fonds propres, je ne vois pas en quoi est-ce que la Cour des comptes serait compétente pour contrôler les ressources propres.
L'article 371 du Code électoral prévoit des sanctions financières et 5 à 10 ans d'inéligibilité du candidat en cas de défaillance du bilan présenté. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
RFI, 8h34 à Libreville, 7h34 à Bamako, texte adopté à l'unanimité hier au Mali. L'Assemblée de transition a validé le projet de loi qui permet au chef de l'État, Assimi Goïta, de se maintenir au pouvoir sans limite, en fait, jusqu'à ce que le pays soit considéré comme pacifié. Projet de loi qui modifie aussi la charte de constitution pour permettre également à Assimi Goïta d'être candidat aux futures élections. Le Mali, où les djihadistes du Jnim annoncent qu'ils vont mettre en place un blocus sur les villes où les habitants sont accusés d'avoir collaboré avec l'armée malienne cette semaine. Quand ces hommes armés ont mené des attaques sur 7 localités, dont Kaï, la grande ville de l'ouest malien. Le blocus, ils l'ont déjà fait dans d'autres régions. Mais Kaï est une grande ville, située sur l'axe qui relie le port de Dakar à la capitale malienne, Bamako, axe emprunté chaque jour par des centaines de camions de marchandises. Alors dans quelle mesure le Jnim a-t-il les capacités de mettre en œuvre cet embargo et dans quelle mesure l'armée malienne pourra-t-elle s'y opposer? David Bachet a posé la question au chercheur Boubacar Ba, directeur à Bamako du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel.
Ils ont développé une stratégie de dissimulation, d'infiltration et de secret. Ils ont occupé des zones qui jouxent ces grandes villes, Nioro et Kaï. Ils sont en nombre, ils ont pu cerner la zone depuis des années. Aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont en mesure de se projeter. Ils peuvent, en tout cas, mener des actions spontanées. Mais maintenant, s'ils tentent de bloquer les routes, d'attaquer des commerçants, des forêts, ils tentent d'attaquer des passagers, ils peuvent faire des dégâts. Maintenant, l'armée malienne est en train de se préparer aussi. Il appartient à l'armée de voir quelle est la dimension du renseignement dans cette zone et pouvoir, à travers ces drones et puis ces moyens aériens, d'empêcher ces mouvements. Mais la difficulté, c'est que c'est des zones qui ne sont pas plates. C'est des zones où il y a des arbustes, c'est des zones de refuge. Donc, ils ont des possibilités de dissimulation dans des forêts, dans des buissons. Et là, ils peuvent mener des actions quand même assez dangereuses qui peuvent porter ombrage aujourd'hui sur la sécurité et sur la quiétude des populations dans cette zone. Bien sûr, lorsqu'ils annoncent qu'ils vont faire des blocus, ça crée la psychose dans la population.
Boubacar Ba, le directeur du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, à Bamako. Dans l'actualité ce matin également, le Togo et les sociétés civiles ouest-africaines qui répondent à la CEDEAO à propos des manifestations la semaine dernière donc au Togo contre le régime de Fornia Simbé. Déclaration commune d'une quarantaine d'organisations dont Africtiviste, Togo Debout et Tournons la Page qui appellent la CEDEAO à sortir de son positionnement neutre sur les événements en cours dans le pays. Elles estiment que la CEDEAO porte une lourde responsabilité historique dans la crise sociopolitique au Togo et lui demande de prendre ses responsabilités. Et prise de position aussi d'Amnesty International qui appelle les autorités togolaises à, je cite, mettre fin au recours excessif de la force contre les manifestants. Des rassemblements, des manifestations, je vous rappelle, considérées par les autorités togolaises comme illégales. Amnesty demande aussi des enquêtes indépendantes de toute urgence pour faire la lumière sur les personnes décédées et disparues. Au moins 7 personnes sont mortes dans les récentes manifestations au Togo. L'Inde est-elle le partenaire privilégié du continent africain? C'est en tout cas ce qu'a affirmé hier Narendra Modi, le premier ministre indien qui vient d'achever une visite officielle au Ghana. Déplacement lors duquel des accords sur l'industrie pharmaceutique et sur les échanges culturels notamment ont été signés. Et Narendra Modi a donc aussi pris la parole devant le Parlement ghanéen à Accra. La correspondance de Victor Cariou.
Les objectifs de l'Afrique sont notre priorité. Voici ce qu'a déclaré, entre autres, le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, face aux parlementaires ghanéens. Une alliance naturelle au vu d'un passé commun marqué par le colonialisme.
Le docteur Kwame Nkrumah a dit un jour « Les forces qui nous unissent sont intrinsèques et plus grandes que les influences superposées qui nous séparent. »
Santé, énergie renouvelable, technologie, infrastructure. Lors de son discours, le Premier ministre indien a déroulé une longue liste de partenariats avec le continent africain, qu'ils soient passés, présents ou futurs. Tout cela vers un même objectif, faire entendre la voix du Sud global avec l'Inde comme chef de file.
En ces temps d'incertitude mondiale, la stabilité démocratique de l'Inde brille comme une lueur d'espoir. Une Inde forte contribuera à un monde plus stable et plus prospère.
Un message que Narendra Modi entend bien partager lors de la suite de son voyage diplomatique à Trinité et Tobago, en Argentine, au Brésil et en Namibie. Victor Cariou, Accra, RFI.
Enfin, comment financer le développement durable sans les dollars des États-Unis ? C'est la question sur laquelle se sont penchés cette semaine en Espagne une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, de dirigeants d'institutions financières internationales et d'entreprises. Et malgré ce contexte international compliqué, ils sont parvenus à ce qu'ils ont appelé le compromis de Séville, nous explique Charlotte Cossé.
Avec la fin actée en début de semaine de l'USAID et la baisse généralisée de l'aide publique au développement au profit d'investissements, notamment dans la défense, les acteurs présents ont dû faire preuve de détermination. Federica Diamanti, vice-présidente du Fonds international de développement agricole.
Le multilatéralisme est toujours là et il y a une forte demande pour cela, c'est très clair. Je pense qu'il y a un réel sens du réalisme et du pragmatisme dans la recherche de solutions qui peuvent être mises à l'échelle et qui peuvent vraiment fédérer les acteurs des organisations internationales, du secteur privé et des gouvernements à travailler ensemble. Cette fois-ci, le secteur privé était assis à la table des discussions et Séville peut faire la différence avec la mobilisation du secteur privé.
Même analyse du côté de la Banque européenne d'investissement qui souligne les synergies en cours, Ambroise Fayol, vice-président de la BEI.
Comme institution multilatérale de développement, et nous on fait partie du groupe des banques multilatérales de développement, il y a, je dirais, un partenariat entre nous qui est quand même beaucoup plus important qu'avant et qui devient en réalité un phénomène qui peut s'apparenter à un fonctionnement comme un système de banque de développement multilatérale.
Plus d'une centaine d'initiatives concrètes ont été présentées à Séville. Une plateforme d'action a été créée pour le suivi de leur mise en œuvre.
Charlotte Cossé à 9h42, ici à Paris. Vous êtes avec Julien Coquel-Rohem.